On s'en va à Ottawa pour parler avec Christopher Nardi, qui est correspondant du journal Le National Post sur la colline parlementaire. C'est la rentrée parlementaire à l'heure où on se parle présentement. Salut Christopher.
Salut Patrick.
Donc, explique-nous donc d'abord, on siège de façon virtuelle, évidemment.
Tout à fait. On a un nouveau parlement hybride, à vrai dire, qui commence aujourd'hui. Tous les partis ont donné leur consentement unanime pour un peu cette nouvelle façon de siéger qui, évidemment, remplit tous les critères de santé publique de cette deuxième vague de la COVID. Alors, selon les nouvelles règles, en ce moment, en théorie, on pourrait avoir une chambre des communes totalement vide. Il n'y a aucun quota de députés qui doivent être en chambre. Et ça se voyait très bien en cette première période des questions de 2021. Il y avait un libéral dans la chambre. Il faut comprendre un peu comment ça, de quoi ça a l'air normalement. C'est un côté de la chambre au complet dominé par les libéraux. Il y avait juste une seule personne dans un bain de sièges vide. Et du côté des oppositions, c'était évidemment essentiellement vide aussi. Quelques membres de plus. Mais aussi, autre nouveauté avec cette nouvelle mouture du Parlement virtuel, c'est qu'on s'en va rapidement vers un processus de vote virtuel, une toute première de l'histoire canadienne. Alors, il y a une application qui a été développée, qui n'a toujours pas été approuvée par les parlementaires, mais c'est en cours. La Chambre doit faire deux séries de tests pour permettre aux députés de voter virtuellement. On m'a expliqué un peu comment ça fonctionne. Le député, lorsque le vote est déclenché, ils ont 10 minutes pour voter, et lorsqu'ils votent, leur appareil va prendre une photo d'eux pour s'assurer que c'est bel et bien eux qui votent et non pas un staffer, quelqu'un dans la rue qui a trouvé leur cellulaire, etc., etc. Et ensuite, lorsque c'est approuvé, ce sera fait en 10 minutes, contrairement en ce moment à un vote qui peut prendre jusqu'à 1 heure. C'est vraiment très long à cause du mélange en présence physique et virtuelle. Et donc, on s'enligne. Le Parlement semble rentrer dans le 21e siècle, malgré lui, lentement mais sûrement. Le vote, c'est cette application de vote virtuel qui doit être approuvée dans les prochaines semaines si tout fonctionne. Et ensuite, on pourrait un jour peut-être voir aucun député en chambre. Ce serait assez particulier. Peu probable, mais quand même possible.
OK. Je pense qu'il y a deux mots qui ont dominé la période de questions, vaccin et pipeline.
Oui, vaccin, pipeline, un petit peu de gouverneur général et on est retourné tout de suite au vaccin. Alors, Patrick, évidemment, comme tu peux imaginer, les fronts communs des partis d'opposition aujourd'hui, on a tapé sur le gouvernement Trudeau à savoir pourquoi est-ce que le Canada ne réussissait pas à vacciner la population plus rapidement, en particulier cette semaine, Pfizer, qui ne livrera aucune dose à l'ensemble du Canada pendant qu'ils font des projets d'agrandissement de leur usine de fabrication européenne. Et c'est évidemment ce que tous les chefs ont martelé, M. O'Toole qui a commencé la charge en disant que M. Trudeau n'avait pas bien réussi à négocier avec Pfizer et le premier ministre qui lui répond évidemment que on tient à notre échéancier de 3 millions de doses reçues d'ici la fin mars et que même s'il y a un délai maintenant, initialement, on va pouvoir se rattraper dans les prochaines semaines. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui continue à brûler en dessous du gouvernement alors que les gens, évidemment, ne reçoivent pas de vaccin. C'est ce qu'on lit dans les nouvelles. Le Bloc québécois, lui, qui critiquait le gouvernement alors qu'on apprenait qu'au Québec, c'est les personnes aînées, les gens qui travaillent dans les centres de soins qui se voient annuler leur rendez-vous ou tout simplement qui ne peuvent pas en avoir. Et donc, on critique énormément. Difficile quand même pour le gouvernement de se défendre. C'est beaucoup de mauvaises manchettes récemment, mais c'est sûr que ils sont tout à fait un peu esclaves à Pfizer qui décide combien qu'ils peuvent en livrer à chaque semaine, tandis qu'on voit aux États-Unis les campagnes de vaccination avancent à bonne vitesse. En Israël, il y a plus de 20% de la population qui est vaccinée. Donc, le gouvernement doit bien avoir hâte de commencer à re-recevoir ces boîtes, ces fameuses boîtes de la Belgique. Mais c'est très lent. Après ça, M. O'Toole, en anglais, le chef conservateur, a lancé la période des questions en demandant des comptes au gouvernement par rapport à ce fameux projet de pipeline albertain qui s'appelle Keystone XL. Alors, c'est un projet qui amènerait environ en moyenne 500 000 barils de pétrole albertain vers les États-Unis. Et en son premier jour en tant que président américain, Joe Biden a annulé son approbation de ce projet-là, ce qui effectivement tue le projet pour l'instant. M. O'Toole qui reproche à M. Trudeau de ne pas avoir assez battu pour conserver ce projet-là. Il y a eu un appel, on le sait, entre M. Trudeau et M. Biden vendredi dernier. le pipeline ou ce projet-là a été évoqué, mais on semble pas qu'il y a eu beaucoup de batailles de la part du gouvernement libéral là-dessus, sachant que c'était une promesse électorale de M. Biden d'annuler ce projet-là.
OK, Christopher, Christopher, oui. Il y a aussi les libéraux, là, c'est arrivé tout récemment, là, c'est arrivé dans la journée, qui ont éjecté un député qui avait avancé des théories du complot.
Oui, c'était assez surprenant. C'est venu en pleine période des questions. Le député de Brampton Center, Ramesh Sangha, qui avait avancé des théories il y a quelques années par rapport à quelques députés, ses propres collègues libéraux, qui l'accusaient d'être collègue ou ami avec les idées de sikh extrémistes, d'extrémisme sikh. Et il s'était récemment répété avec le départ de son collègue et ex-ministre Navdeep Bains, qui a quitté le cabinet. Il a répété ses idées. Ben, on sait bien, M. Bains, lui, a quitté parce que c'est un extrémiste, blablabla. Évidemment, le parti n'a pas particulièrement apprécié et lui a montré la porte de sortie du caucus. Donc, il siégera comme indépendant.
Très intéressant. Mais merci beaucoup, Christopher. Toujours un plaisir de te parler.
Merci à toi, Patrick.
Salut. C'était Christopher Nardi, qui est le correspondant du National Post sur la colline parlementaire à Ottawa.